Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Donc à présent, eh bien, le petit interview que François Pellegrini nous avait accordé dans le cadre de Radio RMLL 2012. Je reçois François Pellegrini à présent dans ce jeudi 12 juillet 2012. Bonjour François.
Bonjour Gilles.
Chaque année, je profite de ta venue aux rencontres pour te faire parler dans le micro. Mm-hmm. Autour des questions, l'événement du mois de juillet, c'était le Independence Day et le rejet d'ACTA, en tout cas sous cette forme-là. Car évidemment, comme d'habitude, chasser le loup par la porte, il revient par la fenêtre. On a déjà, je crois, même des éléments d'ACTA qui sont portés dans le truc qui s'appelle CEPA. Peut-être qu'ils se sont dit ACTA, ça fait un peu action. Ouais. Alors que CEPA, ça fait je sais pas. Peut-être qu'il camoufle le truc comme ça. Mais quand même, c'est quand même super positif, le vote qui a eu lieu au Parlement européen le 4.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu un précédent historique. Hein. C'était la directive brevet logiciel en 2005. Disons qu'à chaque fois que le Parlement européen a eu à se prononcer en conscience, il a pu effectivement refléter la volonté de ses constituents, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire des citoyens. C'est une institution qui est en fait la seule véritablement démocratique dans l'Union européenne, puisque le Conseil est constitué de représentants des États, donc des technos, même pas des politiques. La Commission est aussi extrêmement technocratique et elle subit énormément de pression de la part de tous les lobbies constitués. Donc le Parlement est vraiment le poumon démocratique de l'Union européenne au jour d'aujourd'hui, avec des pouvoirs qui ont été étendus par le traité de Lisbonne, quoi qu'on puisse penser des autres aspects de ce traité. Effectivement, ça fait du bien. Bien évidemment, le fait de rejeter une directive ou un traité, ça ne veut pas dire tuer tous les gens qui l'ont écrit. Et donc, bien évidemment, ils ont perdu une bataille. Et exactement comme nous, chaque fois qu'on en perd une, pas parce qu'on perd une bataille qu'on ne continue pas la guerre. Donc, on est dans un rapport de force dynamique, continuel, entre deux visions opposées du monde. Hein. On est dans une lutte bloc contre bloc, avec d'un côté les tenants d'un modèle d'innovation du millénaire précédent, basé sur la rareté de l'information, où il fallait au contraire, maintenir le contrôle sur l'innovation, et puis donc le modèle actuel, qui est le modèle issu de la révolution numérique, avec une abondance d'informations, où au contraire il s'agit de faire en sorte de pouvoir toucher rapidement le public le plus large possible, afin de monétiser sur un marché de masse l'innovation et faciliter la co-construction du savoir.
On sent derrière les événements qui se passent depuis, on va dire, une dizaine d'années autour de ces questions-là, qu'il y a un inévitable changement important à faire dans la société, que ce soit en termes de processus démocratique, puisque la rédaction de l'ACTA a montré qu'il était finalement assez aisé de les contourner, je veux dire, sans aucune vergogne. Et puis aussi, on voit bien au niveau économique, des gens à l'ONU ont pondu des documents en disant le libre, c'est intéressant, il y a quand même des éléments qui pourraient régler certains problèmes économiques, etc. Enfin bon, en même temps, il y a des gens qui n'ont pas envie de perdre leur position. Mmh. Mais ça a l'air un petit peu quand même inévitable. Et puis quand on voit aussi que les gens commencent finalement à se rendre compte que oui, on peut utiliser son pifone ou son téléphone et puis faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre.
Tout à fait. Je reprends à bon compte une formule de Niels Bohr, hein, qui avait été l'un des inventeurs de la théorie atomique au tournant du début du XXe siècle, qui disait en fait les idées nouvelles ne dominent pas parce qu'elles sont meilleures que les anciennes, mais simplement parce que les tenants des idées anciennes partent à la retraite. Il disait ça dans le monde académique, mais c'est vrai à tous les niveaux, et c'est pour ça que c'est bien de pouvoir mourir pour laisser la place aux générations suivantes. Pas tout de suite, hein, non, mourir pour des idées d'accord, mais de mort lente. Derrière ça, l'idée est qu'effectivement, il y a un renouvellement des générations et que nous ne sommes plus dans les lignes de fracture actuelle dans la société comme nous étions il y a 10 ans. Les manifestations anti-ACTA ont montré un public très jeune Et donc c'est rafraîchissant de voir que ce qui était une problématique de geek et d'une élite il y a 10-15 ans devient nécessairement maintenant une problématique de masse. Et dans 20 ans, ces jeunes-là seront à des postes de responsabilité, certains seront législateurs, et finalement, on gagnera, mais comme on gagnait l'électricité face au gaz en leur temps, ou l'automobile face au chemin de fer. Hein. Je rappellerai, parce que c'est très important d'étudier l'histoire, au moment de l'émergence de l'automobile, alors que ce n'était pas encore un secteur industriel doté de son propre lobby, il y avait une loi qui avait été passée en Angleterre qui s'appelle le Locomotive Act. Vous pouvez chercher sur les encyclopédies en ligne. Et le Locomotive Act exigeait de chaque possesseur de véhicules donc à traction mécanique qu'il soit précédé d'un homme à pied maniant un fanion en disant « Attention, il arrive !» Et donc le but, c'était de ralentir l'automobile à la vitesse de l'homme à pied. Et cet article n'a été abrogé qu'il y a moins de 20 ans. Mmh. Donc c'est-à-dire que toute la civilisation de l'automobile s'est développée en Grande-Bretagne dans la plus parfaite illégalité. Adopi, c'est exactement la même chose. C'est parce que, effectivement, les réactionnaires, au sens technique du terme, hein, ont les leviers de commande parce qu'ils sont installés au gouvernement et que leur vision est partagée par la classe d'âge des législateurs, que se mettent en place ces techniques de réaction. Dans 20 ans, ce sera balayé, mais on aura d'autres combats sur lesquels il faudra encore être en pointe parce que la génération actuelle, moi y compris, ne seront pas en phase avec l'avenir. Mmh. Mais donc, rien de bien nouveau sous le soleil. Les Grecs en parlaient encore 700 ans avant Jésus-Christ.
Justement, on parlait des Grecs tout à l'heure avec Emmanuel Charpentier de l'April qui est venu nous causer de voter par Internet. Il a toute une théorie où on tire au sort finalement ceux pour lesquels on vote actuellement, sauf qu'après on les contrôle. C'est-à-dire ça pourrait être n'importe qui à qui on donne un mandat, sauf qu'on le contrôlerait en permanence et on pourrait voter en permanence dans l'absolu, etc.
Alors, rien de nouveau sous le soleil. Là aussi, il y avait Philippe K. Dick qui avait proposé avec Loterie solaire, son roman Loterie solaire, que justement les décideurs soient élus au hasard dans la population, sachant que le but pour les contrôler, on les zigouillait. Et justement, ce qui était assez intéressant dans ce livre-là, et ce qui montre les limites selon Dick, de la démocratie directe, c'est qu'à un moment donné, justement, ils avaient truqué le système pour que la même personne reste en position suffisamment longtemps pour pouvoir aborder des problèmes de grande ampleur qu'une personne renouvelée souvent et qui n'avait pas le temps de s'auto-former ne pouvait pas aborder. Lisez ou relisez cet ouvrage-là, c'est ça. Maintenant, attention, chaque fois que j'entends le mot vote accolé au mot électronique, en général...
Pas vote électronique, c'est vote par Internet.
C'est pareil, c'est encore pire. D'ailleurs, on l'a bien vu pour l'élection présidentielle où le magnifique système de pseudo-vote par Internet des Français, des représentants des Français de l'étranger pour les législatives s'est fait hacker, bien évidemment. Moi, je suis un farouche opposant à ce qui est une piètre simulation et une perversion de la démocratie, parce qu'elle est totalement falsifiable et sans aucune trace.
Alors, cette année, il y a eu ACTA, on va dire les élections en France. Qu'est-ce qui, sur cette année, a retenu ton attention, ou ton émotion, ou ton admiration, ou ton indignation dans cette sphère du logiciel, de l'Internet ?
Ah là, j'avoue que c'est une sale question, parce que j'ai pas la notion du temps. Clairement, moi, ce que j'ai vu se construire autour d'ACTA, c'est une opinion publique mondiale. Alors ça avait commencé, bien sûr, avec les questions écologiques. Et finalement, on se retrouve dans la même configuration, qui est que face à une problématique qui n'est pas prise en compte par les partis traditionnels, parce qu'au départ, elle est vue comme sectorielle, catégorielle, se créent des partis sectoriels et catégoriels qui ne sont pas en position de gouverner. Justement parce que, j'en parlerai après, mais prenons l'exemple. Donc, je faisais référence au parti écologiste, avec au pluriel à chaque fois, hein, dans les années 1970, et puis ensuite donc au parti pirate actuellement. Un représentant du parti pirate en France, sur tous les sujets de société, pourra voter complètement à l'opposé d'un représentant du parti pirate des pays nordiques, parce que sur les sujets, et pourtant la question se pose, mais on en avait déjà parlé l'an dernier à Strasbourg, Bien sûr, la personne n'est compétente pour parler que dans son domaine et n'a pas de ligne idéologique sur la société. Mais donc, je crois qu'autour d'ACTA, on a vu vraiment une opinion publique mondiale qui existait, donc qui a émergé autour des questions écologiques et qui là vraiment s'est dressé. On a vu les pays d'Europe de l'Est très en pointe, on a vu des manifestations sur toute la planète. Ça, c'est assez intéressant. On a vu aussi donc, ce qu'on qualifie de printemps arabe aussi, mais donc ça ne couvre pas que cette année-ci, mais avec justement l'utilisation des outils numériques pour effectivement faire émerger des paroles. On voit avec les actions de Télécomix en Syrie, en Égypte. Donc voilà, moi je pense que les enfants de la révolution numérique sont maintenant des grands ados qui ont leur majorité, leur carte de crédit et leur permis de conduire. Et ils commencent à façonner le monde en tant que jeunes adultes. Et je trouve ça assez intéressant. Mmh.
Alors, à ce titre, à Toulouse, il y a quelques mois, il y avait eu une manifestation autour du Theta Lab là-bas et tout ça. Et Jérémy Zimmermann était présent et un petit peu provoque.
Toujours, lui
oh. Voilà. Donc, il y avait de jeunes militants pirates.
Oui.
Et à qui il a dit moi, j'aime bien les pirates, mais j'aime pas les partis.
Oui, mais on avait eu cette discussion. Hein. On peut y revenir. Hein. Mais c'est que pour pouvoir rentrer dans le jeu démocratique et bénéficier des moyens que la nation met à la disposition de l'expression des opinions politiques, il existe un mécanisme. Mmh. Et alors on pourrait peut-être dire que comme la démocratie, c'est peut-être le pire, mais tous les autres sont encore plus atroces, qui est le mécanisme des partis. Où effectivement le financement par exemple, alors ça peut être une disposition intéressante, hein, j'y ai cru aussi à un moment, quand pour les législatives, un parti donc fait plus de 1% des voix dans 50 circonscriptions, alors il reçoit, si je ne m'abuse, 0,76 euros par suffrage reçu. Mmh. Donc on est dans un mode de financement de la démocratie avec un effet de seuil, mais qui permet, j'allais dire, la proportionnalité qu'on ne trouve pas nécessairement ensuite quand on calcule qui va être élu ou qui ne va pas être élu. Mmh. Donc la nécessité de s'organiser en partie, elle est importante pour ne serait-ce que mutualiser justement le substrat idéologique. Alors ça peut se faire par Internet, hein, ça déjà. Mais le fait est que pour accéder à la représentation nationale ou européenne, on est obligé de se constituer en parti, d'abord simplement pour une question de marque, hein, et de montrer qui on est dans la tête des électeurs. Mmh. Parti, ça veut dire vous pourrez voter pour nous aux élections. Ça, c'est vu de l'extérieur, j'allais dire pour le citoyen, c'est ça que ça veut dire parti. C'est on souhaite accéder à des fonctions électives pour pouvoir peser sur la décision, enfin sur un certain nombre de décisions nationales. Ce n'est pas le seul moyen de le faire. Il y a l'activisme, comme on a pu le voir avec ACTA. C'en est un. Jérémy, effectivement, lui est critique vis-à-vis des partis. Je comprends ses réticences. Moi, je pense que de toute manière, il faut être dedans, il faut être dehors. Moi, j'ai fait le choix d'être dedans. Ça ne m'empêche pas d'être dehors.
Absolument. Alors, tu es un des cofondateurs de ces rencontres mondiales du logiciel libre. Pour cette édition, quelle rencontre as-tu faite ?
La vraie rencontre, c'est la rencontre avec l'étranger. Je parlerai en gaulois, en terre helvète, mais c'est la première édition des Romeleleux hors de France. C'était quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Et dont on est absolument ravi que ça arrive, en plus avec l'accueil qui a été fait aux rencontres mondiales à Genève. Vraiment, c'est une très très belle édition. Donc ça, j'en suis ravi. Et puis sinon, c'est justement le hasard des rencontres mondiales. C'est pour ça qu'on a mis rencontre au début du titre. Hein. Ça vient en premier et c'est fait exprès pour. Au hasard, des gens de d'horizons très différents. Au hasard, des queues au self à midi. Au hasard, des tablés au repas du libre. Là encore, bon, c'est vaste, c'est multiple. Je peux pas en parler comme ça de façon... J'allais dire précise, hein. tellement c'est vaste.
François Pellegrini, interrogé lors des rencontres mondiales du logiciel libre 2012 à Genève au début du mois de juillet. Divergence numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terror states.